Bonjour.
Bienvenue dans la maison de notre Dieu. J'espère que vous avez chanté avec moi ce dernier cantique qui dit « Toute ma vie l'a donnée pour toi, toute ma vie au pied de la croix, toute ma vie à marcher dans tes voies, toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. » Alléluia. Par les termes de ce chant, il y a là comme une déclaration. Une déclaration qui dit « Je veux rester fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte. » Et c'est le titre du message de ce matin. « Fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte. » Il est bon au préalable de donner quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Que veut dire fidèle? Fidèle veut dire dévoué, loyal, attaché, constant, régulier. Et dans les relations amoureuses, on dit on est fidèle quand on a une relation amoureuse qu'avec celui ou celle envers qui on est attaché. Et ça veut aussi dire, par ailleurs, qui ne trahit pas, qui est fidèle à ses promesses. Alors, lorsque on fait cette déclaration comme celle qu'on vient de chanter, « Toute ma vie », c'est un engagement à rester fidèle. Le texte que nous allons voir ce matin nous parlera de trois jeunes hommes qui ont décidé de rester fidèles. Et on le trouvera dans le livre de Daniel au chapitre 3. Je peux résumer ce texte. En tout cas, dans ce texte que nous allons lire, il y a un enjeu. Et l'enjeu, c'est se prosterner ou adorer les idoles, se prosterner et adorer les idoles ou Dieu. Voilà l'enjeu dans lequel nous sommes placés. Il est donc bon que je définisse aussi ce que c'est que se prosterner. Il est bon que je définisse ce que c'est que adorer et ce que c'est qu'une idole, pour bien placer le décor. Se prosterner, nous dit le dictionnaire, c'est s'abaisser, s'incliner en avant et très bas dans une attitude d'adoration et de supplication et d'extrême respect. Adorer, c'est rendre un culte à Dieu ou à une divinité. Idole, c'est une représentation d'une divinité que l'on adore comme la divinité elle-même. Alors, je disais, il y a un enjeu dans le texte que nous allons lire ce matin. Cet enjeu va mettre en évidence pour le croyant en général et pour le chrétien en particulier le prix à payer pour rester fidèle à Dieu. Surtout lorsqu'on évolue dans un monde comme le nôtre, où quasiment tout est mis en œuvre pour nous détourner de Dieu, pour nous faire adorer, en quelque sorte, autre chose que Dieu. Oui, le texte nous montrera quels sont les pièges auxquels le croyant peut être exposé et combien il peut être facile de justifier notre infidélité. Mais il nous montrera aussi, et c'est ça que je veux qu'on retienne, il nous montrera aussi combien nous pouvons demeurer fermes en Dieu, quelle que soit la pression que nous pouvons subir. Le texte que nous allons lire aussi nous montrera que leur réalité, la réalité à l'époque où ils vivent, ce que nous allons voir tout à l'heure, ressemble à s'y méprendre à notre époque. Alors la question qui te sera posée ce matin, est-ce que tu resteras fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte? Pour la génération de ces trois juifs, on va voir qu'il a été mis en place un système politico-religieux. Et c'est ce que nous allons voir en ouvrant donc notre livre, notre Bible, dans le livre de Daniel, et plus particulièrement dans le chapitre 3. Nous lirons les 6 premiers versets. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Si vous n'avez pas de Bible, je pense que le texte sera affiché. Et je le lis dans la version Semeur. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis, il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Verset suivant. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée, et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un héros proclama à voix forte: « À vous, peuple, nation et hommes de toute langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fif, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue que le roi Nabuchodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. » Si nous lisons le chapitre dans sa totalité, nous verrons que cet ordre revient à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, et pour montrer que pour ce roi, en tout cas à l'époque, c'était quelque chose qui lui importait. Donc, il organise une réunion solennelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons lu qu'il a convoqué l'élite du peuple, qui représente la totalité du peuple. Et pour convaincre le peuple, il faut convaincre les élites. Il fut un moment où j'ai fait un peu de politique. Et lorsqu'on voulait gagner du terrain, qu'est-ce qu'on faisait? C'était au Cameroun. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il fallait d'abord aller toucher les élites. Parce que quand les élites avaient parlé, le peuple suivait. Et voilà ce qui se passe ici. Voilà le décor dans lequel les choses se passent. Convocation de l'élite. Je vous demande un peu d'avoir un peu d'imagination. Sur une grande place, sur notre gauche, se trouve l'élite. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ce décor? Sur notre droite, on peut observer un grand feu qui est mis. Et on va faire venir parler un porte-parole du roi, celui qui proclame les décisions du roi. Je suis sûr que ces personnes ont été invités sans qu'on leur donne l'ordre du jour. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On ne leur donne pas l'ordre du jour. Et même si on leur donne de façon tronquée. Et les choses essentielles vous sont données séance tenante. Et c'est ce qui va se passer ici. Il y a une communication de l'ordre séance tenante pour créer un effet de surprise et pour éviter tout échappatoire. Qu'est-ce qui se passe? Un héros proclama à voix forte: « À vous, peuple, nation et homme de toute langue, on vous fait savoir. » C'est sur le champ qu'ils le connaissent. « Au moment où vous entendrez le son du cor, et je résume rapidement, des instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. » On peut encore dire, on a le choix là, jusque-là. Mais quand on entend la suite, avec l'argument massue qui sera donné, je pense que cela va décourager plus d'un. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle le feu ardent. D'un côté, je vous disais tout à l'heure, l'élite. De l'autre côté, le feu. Un ordre, une sentence à réalisation immédiate. Pensez-vous que vous auriez pu résister? Je pose la question. Le roi, en le faisant, poursuivait un objectif précis: faire adorer à tout le peuple le Dieu qu'il venait d'ériger. Alors, est-ce qu'on peut être surpris lorsqu'on lit le verset 7 qui nous dit « C'est pourquoi au moment où tous les gens entendirent le son de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait fait ériger. » Je ne suis pas surpris. Est-ce que si nous avions été là, nous aurions eu un comportement différent? Notre actualité ressemble à s'y méprendre à ce que ce peuple a vécu. Vous me direz, mais non, on ne met plus, on ne jette plus les gens dans le feu. Ce n'est pas possible ce que tu nous racontes. On ne traîne peut-être pas les gens à la mort. Oui, dans notre pays. Mais il suffit de jeter un regard sur certains pays, et notamment les pays totalitaires. Je prends par exemple la Corée du Nord. On verra que les gens sont opprimés lorsqu'ils n'obéissent pas au régime qui est sur place. Je pense à certains pays musulmans où le fait de croire en Christ est une condamnation à mort. Lorsque vous croyez, vous savez que vous êtes désormais en condamné. En sursis peut-être, mais si on vous attrape, vous êtes liquidé. Oui, ça existe encore, donc ça ressemble à notre monde aujourd'hui. Peut-être que dans notre pays, c'est un moindre degré, mais nous sommes toujours placés devant le même défi. Est-ce que nous adorerons notre Dieu face à la pression qui nous entoure? Je veux juste regarder l'actualité récente de notre pays. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Cette information, généralement, elle passe de manière discrète. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a une dame du nom de Lalanne qui était responsable du personnel des écoles à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, qui a été mutée de son service, tout simplement parce qu'elle a distribué des calendriers où il y avait écrit des versets bibliques. Voyez jusqu'où on peut aller dans notre pays qui, apparemment, est un pays des libertés, où on peut exercer librement notre conscience. Mais ce n'est pas le cas. Et l'exemple que je viens de donner ici l'illustre bien. Avec les lois iniques qui passent, où on peut avoir Steven et André qui se marient, où on peut avoir Charlotte et Hélène qui se marient, il y a des maires qui s'opposent à ce genre de système et on les traîne en justice. Même quand ils font valoir le fait qu'il y a une liberté de conscience dans ce pays, ils sont traînés en justice. Voilà ce qui se passe. Donc je disais, dans une moindre mesure, ils ne peuvent peut-être que perdre leur travail ou être mutés. Mais cela va plus loin. Je redescends d'un cran. Dans le lieu de travail, est-ce qu'on n'a pas parfois une pression? J'y discutais cette semaine avec une jeune fille de notre église qui, lorsqu'elle a commencé à travailler, a décliné son identité chrétienne. Eh bien, il faut savoir que tous les yeux étaient braqués sur elle. Elle est devenue comme un objet de curiosité. Alors, il lui demandait, mais t'as pas de copain? Mais d'où tu vis, toi? Eh oui, quand elle disait qu'elle veut se tenir pure pour son mari, elle a eu toutes les pressions possibles et imaginables. Des moqueries, Eh oui, c'est ça. Dans notre vie de chaque jour, moi je pense à nos enfants à l'école. Ils doivent subir les mêmes pressions. Peut-être pas avec une menace aussi grande que le feu, mais toutes ces choses ne contribuent-elles pas à nous amener à adorer un autre Dieu que le nôtre, à ne pas être fidèles au Dieu que nous servons? Oui, le but poursuivi, c'est bien de nous pousser à désobéir à Dieu. J'ai dit tout à l'heure que tout le monde s'est prosterné. Mais si je m'arrêtais là, je n'aurais pas donné l'information véritable. On peut lire la suite qui va nous montrer que il y a des personnes qui n'ont pas accepté de se soumettre au diktat de ce souverain, de ce roi. Et lorsqu'ils l'ont fait, ça s'est remarqué. Vous imaginez toute une foule. Courbée, par terre. Parce que je disais tout à l'heure, dans la définition, c'est s'incliner de manière très basse lorsqu'on se prononce, lorsqu'on se prosterne. Et on voit trois têtes qui débordent. Je pense qu'on n'avait qu'une envie, en tout cas. Ceux qui l'ont observé ne voulaient que les couper. Il fallait égaliser les choses. Comment se fait-il qu'ils ont osé? Et là, dans ce texte, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est ni le roi ni les autorités qui l'ont remarqué. C'est trois personnes. Dans la société, on a parfois le contrôle social. Il y a un contrôle social qui n'est pas formel. Parfois qui se mêlent pour nous ramener dans les rangs. Comment oses-tu être différent? Pour qui te prends-tu? C'est ainsi qu'on va donc voir trois Chaldéens qui vont se lever et qui vont faire ce rapport au roi. Il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi. Ô roi, ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ce sont des étrangers. Non, des étrangers. Des étrangers. Qui plus est, à qui tu as donné des titres, à qui tu as, que tu as honoré, à qui tu as donné des privilèges. Ils osent. Ils osent. Parfois, lorsque tu es béni par Dieu, parce que je suis sûr qu'ils étaient bénis par Dieu, le diable essaye d'utiliser les bénédictions que tu as eues pour te soumettre à lui. Et c'est ce qui se passe ici. Ils ont osé. Osé. Et nous pouvons nous interroger sur la motivation de leur désobéissance, alors qu'ils encourent plusieurs risques. Au niveau social, ils risquaient de perdre leur rang et tous les privilèges attenant à ces rangs, à ce rang, les honneurs, l'aisance matérielle. Mais pire encore, ils pouvaient mourir, perdre leur vie. Mais qu'est-ce qui donc fait que ces trois jeunes hommes osent se mettre debout? Moi, je suis curieux de savoir, parce que cela peut m'instruire lorsque je serai face à ce genre de situations qui ne manqueront pas d'arriver. Parce que chaque fois que tu décides de servir Dieu, il y a une cohorte qui se lève pour essayer de te faire plier le genou et d'adorer le système en place. Oui, le contrôle social, ces gens l'ont subi. Ils l'ont subi par ces Chaldéens qui les ont dénoncés. Et voyez, quand ils dénoncent, ils reprécisent les règles au cas où le roi les aurait oubliées. Ils disent, cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer, la statue sera jetée dans la fournaise où brûle un feu ardent. Voyez là va commencer leur calvaire, entre guillemets. Peut-être ils étaient dans la foule, mais là, on va les interpeller de manière directe. Et c'est le roi même qui se chargera de le faire. On essaiera de vous amener dans un entonnoir qui débouche sur une décision d'adorer le Dieu de ce ciel. Oui, ils sont mis sous pression. Mis sous pression avec l'intimidation du roi. La parole de Dieu nous dit au verset 13, « Alors Nebuchadnezzar s'irrita. Qui a envie de subir les foudres d'un roi? Qui a envie de subir les foudres d'un chef de service? Qui? Généralement, personne. Parfois, même à l'idée de savoir qu'ils peuvent s'énerver, on corrige notre attitude. Mais là, ces jeunes vont se placer face à ce roi. Et vous voyez, il va essayer d'avoir des précisions. Il va essayer de dire, mais est-ce que je me trompe? Est-ce que ce que je vois, est-ce que je rêve? Vous êtes vraiment en train de vous rebeller? Est-ce que je rêve? Il va dire, est-il vrai? Là encore, c'est une chose qui essaye de casser leur résistance. Est-il vrai, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue? Devant le calme certain de ces jeunes juifs, il va aller plus loin. Il va procéder à une sommation. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, je ne vous donne pas une autre occasion. C'est la seule, c'est l'unique, c'est la dernière. Maintenant, êtes-vous prêts? Oseras-tu braver mon autorité? Oseriez-vous braver mon autorité, semble-t-il dire à ces gens. Il dit, au moment où vous entendrez les instruments de musique, vous vous prosternerez et adorerez la statue que j'ai faite. Si vous refusez, regardez juste en face de vous ce qui vous attend. Ça s'appelle des arguments massus. Hein. On peut nous menacer de différentes manières. Mais là, il y a eu l'intimidation, il y a eu la sommation. Et nous verrons en dernier recours qu'il y aura une tentative de déstabilisation. Il dit, et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Une véritable opération de sape. Il veut saper le moral de ces trois jeunes. Oh, si j'étais là, peut-être que je leur aurais donné quelques conseils pour en sortir. Je ne sais pas quel est le conseil que vous leur aurez donné. Mais j'aurais pu leur dire, pourquoi mourir bêtement alors qu'on peut faire semblant sans adorer? Soyez raisonnable, vous êtes quand même intelligent. Comment vous allez mourir aussi bêtement? On peut s'incliner et dans son cœur ne pas adorer. Pensez à autre chose. Pourquoi ne pas le faire et le confesser après? Pourquoi vous voulez être juste à l'excès? Est-ce que vous ne faites pas preuve de fanatisme là? Pourquoi ne pas rentrer dans le système et le transformer de l'intérieur? La Bible ne dit-elle pas qu'il faut obéir aux autorités? Et d'ailleurs, ce Dieu que vous servez, est-ce qu'il vous a protégé de l'épreuve? je veux vite corriger, ce n'est pas ce que je leur dirai. Rassurez-vous, ce n'est pas ce que je leur dirai. Mais on est tenté de le leur dire. Pourquoi mourrez-vous ? Pour rien. Alors, jusque-là, donc je m'interroge sur la motivation de ces jeunes. Il devait avoir quelque chose pour ne pas accepter, pour accepter de perdre autant. Mais est-ce que vous avez, vous aussi, cette chose qu'ils ont? Et c'est là peut-être le secret pour tenir de manière durable, pour être fidèle, quoi qu'il en coûte. Je lis au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Nous ne discutons pas avec toi. Ce n'est pas de l'insolence, mais nous savons ce que nous avons. Et alors ta proposition, garde-la. Nous ne te répondrons même pas sur ce sujet. Est-ce que nous pouvons avoir autant d'audace? Ma prière, c'est qu'il faut que j'aie autant d'audace que ces trois jeunes hommes. L'audace de dire non à une autorité qui n'est pas la mienne. Quelle est ton autorité? Dieu ou ce monde? C'était là l'enjeu, comme je le disais au début. Et ils vont plus loin. Ils disent au roi, nous voyons bien le feu qui est en face. Nous sommes censés être terrorisés. Mais nous te disons, sache que nous n'adorerons pas ton Dieu. Sache que dans notre vie, il n'y aura aucun compromis par rapport à ce que tu nous demandes. Oui, si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Cela fait écho ici à la question qui leur avait été posée. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Ils lui répondent, notre Dieu peut nous délivrer. Ils ont une foi entière dans leur Dieu. Ils ont une confiance entière dans la capacité de Dieu de les délivrer de cette situation si difficile. Mais si on était toujours sûr d'être délivré, la foi serait facile. Moi aussi, je m'inscrirais rapidement. Je dirais, de toute façon, on a tout à gagner avec Dieu. On a tout à gagner avec Dieu, je continue à le dire. Mais il peut avoir des difficultés, il peut avoir des coups sur le chemin. C'est pour ça qu'ils peuvent lui dire, même s'il ne le fait pas. Waouh ! Il passe sur une autre dimension. Même s'il ne le fait pas, sache bien. Il sache, hein, mais bien, sache bien, mets-toi ça dans la tête. Ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Non négociable. C'est non négociable. Ton feu, c'est vrai, il va nous brûler. Nous en sommes conscients. Notre Dieu peut nous délivrer, mais il peut ne pas le faire. Alors, mais c'est quoi le problème de ces jeunes? Il ne peut pas le faire. Non, c'est qu'ils avaient confiance au Dieu qui donne la vie, au Dieu qui peut ressusciter les morts. Et même quand bien ils mouraient, Dieu avait la capacité de les ressusciter. Il dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Donc les menaces du roi ne leur font pas peur. Ils avaient été éduqués dans leur jeunesse à ne pas adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël, que l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, dit Exode 20 au verset Exode 20, versets 3 et 4. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, en bas, ici en bas sur la terre, ou dans les eaux, ou plus bas que la terre. Ils l'avaient gravé dans leur cœur. Et rien, ni personne,
ne pouvait le leur enlever. Ils avaient une foi en leur Dieu, une foi qui ne pouvait être bousculée par rien. Leur vie était consacrée à Dieu. Paul ne nous fait-il pas la même exhortation lorsqu'il nous dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En renonçant à leur vie, ils offraient un culte à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous sur notre marche chrétienne. La vie éternelle que Dieu donne par Jésus, elle est gratuite. Mais la marche du chrétien a un coût. Ça, il ne faut pas l'oublier. La marche du chrétien pour le ciel a un coût. D'où cette invitation, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Vous vous imaginez que le roi ne l'entend pas de cette oreille. Qui vous êtes? Vous pensez peut-être que je blague, mais vous allez rentrer dans le feu. Ça, c'est certain. Alors ne faites pas des paris en disant peut-être que Dieu va me sauver. Il peut ne pas. Je vous prends plusieurs exemples. Dans les pays musulmans, on voit des gens qui sont tués pour leur foi. Dieu le permet. Dans le Nouveau Testament, je vois la personne d'Étienne. Étienne, qui n'avait pas honte de dire la vérité. Cette vérité a tellement choqué qu'on s'est mis à le lapider. Où Dieu était? Où était-il? Oh, mais quand je lis le texte qui nous parle d'Étienne, il est question de Jésus debout sur le trône. Parce que Jésus voulait encourager Étienne en lui disant, « Mon ami, n'aie pas peur, dans quelques instants tu seras avec moi. » C'est ce que nous devons avoir face à la difficulté. Il y a une alternative. Soit nous mourons et nous rencontrons notre Seigneur de manière immédiate. Soit le Seigneur nous en délivre. Et cela est pour sa gloire et nous continuons notre chemin. Le Seigneur, non, Paul disait, la mort m'est un gain. Donc ceux qui pensaient lui donner la mort faisaient quelque chose de bien. Il dit toutes ces choses que je regardais comme avantage. Cela me semble comme de la perte à cause de la connaissance que j'ai de Jésus. Donc ce qui faisait leur force, en résumé, c'est que ces personnes connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Parce que si tu ne connais pas personnellement ton Dieu, il est difficile de résister à une pression aussi énorme que celle que ces gens ont subie. Ils connaissaient leur Dieu. Si nous continuons l'histoire, et je m'en vais vers la fin, nous verrons que la sentence a été mise en exécution. Il est dit, alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus que d'habitude. Peut-être pensait-il qu'ils allaient changer d'avis. Aussitôt, il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement. Il ne faut pas qu'ils aient la possibilité de s'échapper. Ils vont cramer, comme disent les jeunes. De les ligoter solidement, Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffé. Aussitôt, les hommes furent ligotés, tout habillés,
avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans et jetaient dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Je vais plus loin. Ils tombèrent tous les trois au milieu du feu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que la stupeur, que Nebuchadnezzar fut saisi de stupeur et se leva précipitamment en s'adressant à ses conseillers et demanda : N'avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ? Ils répondirent au roi : Bien sûr, majesté. Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes. Alléluia. Notre Dieu est à tes côtés. C'est ça sa promesse. Tous les jours, jusqu'à ce qu'ils reviennent, nous avons cette promesse de la part de Dieu. Un quatrième homme. Eh bien, oui. Il a l'aspect d'un fils de Dieu. Moi, je dirais, il est le fils de Dieu. Jésus ne te laissera pas. J'ai dit, si tu meurs, c'est un aller simple vers le ciel. Si tu en sors, tu témoignes pour sa gloire. Dans tous les cas, Dieu est glorifié. Parce que lorsqu'on te verra mourir, peut-être à cause de Christ, les gens se demanderont pourquoi va-t-il jusqu'à la mort. Ils s'interrogeront et trouveront le Dieu qui donne la vie. Eh bien, puis Nabucodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier. Non, excusez-moi. Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième, de l'aspect d'un fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer deux secondes dans la tête de ces trois jeunes hommes? Dans le feu, peut-être quand on les y envoyait, ils se disaient, c'est fini. Mais les liens brûlés, ils marchent dans le feu. Ils devaient être dans un état d'excitation particulière. Marcher dans le feu qui n'a aucun effet sur eux. Si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. C'est encore là l'une des promesses de Dieu. Ce qui a fait la force de ces jeunes, nous le trouverons, et ce sera ça ma prière, et je demanderai à l'équipe musicale de commencer à venir. On le trouve dans Éphésiens. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin. Mes lunettes, j'ai un problème. C'est une prière qu'Éphésiens va faire pour le peuple de Dieu qui se trouve à Éphèse. Il dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et voilà le verset que je veux pour vous et ma prière est, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui, cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite. Par la puissance de Dieu qui agit en nous. Ah, Éphésiens 1. Excusez-moi, je n'ai pas donné le verset. Éphésiens 1, à partir du verset 17. Je suis désolé.
Éphésiens 1, 17. Il fait agir une puissance en nous, cette qui peut nous relever d'entre les morts. Donc ta vie, quand elle est entre les mains de Dieu, même si tu la perds, tu la retrouveras. Alors ta décision doit être celle du chant qu'on a exécuté tout à l'heure avant la prédication, qui dit « Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. » Alléluia.
Tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage,
si c'est votre décision,
je m'appuie
à vous lever
sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter.
Choisis la fidélité à Dieu, quoi qu'il t'en coûte. Et devant l'enjeu de te prosterner ou adorer, adore ton Dieu. Nous allons passer aux annonces.